Vous écoutez
RMC. RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
Le retour des grandes gueules du sport sur RMC. On est ensemble en direct jusqu'à midi en compagnie aujourd'hui de Sarah Pitkowski, Marie Martineau, Pascal Duprat, Christophe Cessieux. Si vous avez manqué la première heure et demie de l'émission, elle est déjà disponible sur toutes les plateforme de téléchargement, à commencer par l'application RMC. On a parlé d'une éventuelle élimination du PSG. Serait-elle synonyme de saison ratée pour le club de la capitale? On a parlé de la technologie dans le sport. Est-elle en train de tuer l'arbitrage? On a parlé de Mathieu Van Der Poel, l'épouvantail, une nouvelle fois aujourd'hui, alors que se dispute l'Amstel Gold Race. Est-il battable? Certains pensent que oui, certains pense que non. Attendez la fin de l'émission pour aller picorer les débats que vous avez manqués. Je vous rappelle que tout le week-end, RMC vous fait gagner des places jusqu'à mercredi prochain, où nous serons à J-100 des Jeux Olympiques de Paris. On vous offre donc 100 tickets pour les épreuves des Jeux, depuis hier, pardonnez-moi. Dans chaque émission, vous pouvez remporter 2 places pour assister à des épreuves ou à la cérémonie d'ouverture, mais on a également la finale du 100 mètres, le judo, du tennis de table, le ping, comme disent les frères Lebrun, la natation catenache, bien plus encore. Pour ça, pour tenter votre chance, vous envoyez Paris 2024 au 7-32-16, avec ou sans espace entre Paris et 2024. Paris 2024, en tout cas, au 7-32-16. Tirage au sort en direct dans l'émission avec passage à l'antenne pour le ou la gagnante à 11h40. Auparavant, juste avant, à 11h30, le redouté et redoutable, évidemment, débat caché, histoire de vérifier si nos GG s'intéressent vraiment à toute l'actualité lorsqu'elles viennent bosser. Mais pour l'instant, on accélère, on passe la seconde. Les grandes gueules au report.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Service après-vente, bonjour.
Bon, bah voilà, ils veulent quoi tous là, à un moment donné?
D'un côté, on n'est pas content quand nos équipes ne jouent pas la Coupe d'Europe parce que c'est la petite Coupe d'Europe, parce que c'est ci, parce que c'est ça.
Tu mets le train avant les meubles.
Ils sont pas d'accord là, le peuple est dans la rue, le gouvernement s'entête.
Pour une fois que la Ligue met quand même en valeur les clubs qui sont quand même en quart de finale de Coupe d'Europe.
Ça ne les dérange pas, ça leur fait pas bouger une. Enfin, je sais plus comment ils disent.
Bon, à un moment donné, c'est moi qui tranche, hein. Je peux faire les grosses.
Excusez-moi, mais vous êtes qui?
Je suis qui?
Ceux qui brouillent les étapes.
Pardon?
J'appelle ça la France, et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Mais enfin, ça va pas continuer longtemps, cette histoire. C'est moi, François.
Ah oui, pardon.
François le Français.
Oui, pardon.
Je suis la France.
Oui, pardon.
Faire cette phrase formidable, tu le sais bien, qui
a
le
osé.
Savoir-faire maison à RMC. Il n'y a que nos producteurs pour nous faire de tels petits montages. Kylian Vérov, évidemment, au platine, on se régale. Tout le monde en a pris pour son grade. On brouille les pistes, ça en touche une sans vraiment savoir quoi derrière. Bon, tout le monde a été convié. Merci, mon cher Kylian. Vous l'avez compris, ça ne vous a pas échappé. Pas de PSG, d'OM ou de Lille sur les pelouses de Ligue 1 ce week-end. Le point commun de ces trois clubs.
Mais on arrive quand même à faire un débat par jour sur.
Exactement. Ah, écoute, ils sont encore engagés. Ils sont encore engagés, ces trois clubs, en Coupe d'Europe. Ils disputent un match retour cette semaine. Paris face au Barça en Ligue des Champions mardi soir. L'OM en Europa League jeudi face à Benfica au Vélodrome, juste après que Lille aura affronté Aston Villa en Europa Conference League. Trois clubs battus lors du match aller, faut-il le rappeler. Trois matchs dont vous ne manquerez rien, est-il besoin de le préciser sur RMC. Lorient PSG, Marseille Nice, Monaco Lille, comptant pour la 29e journée, ont donc été reportés au mercredi 24 avril prochain, au nom du proverbial intérêt supérieur du football français. Eh bien, figurez-vous, les GG, que ça ne plaît pas à tout le monde, ce qui nous a donné envie de vous demander votre avis sur la musique qui fout les jetons. Cette question, faut-il oui ou non défendre cet intérêt des clubs français en Coupe d'Europe? Sarah Pitkowski.
Oui, mais là, dans ce genre de situation, non.
Oui, mais non. Denis Charvet, toujours là, même lorsqu'il n'est pas là. Marie
non,
Martineau.
Je te dis non.
C'est un non, Marie Martineau.
Bon, moi, je suis ni certaine d'avoir cerné le débat, ni la réponse que j'ai envie de faire. Et en plus, tu as changé la question. Alors, comment te dire voilà. J'ai envie de dire, je suis pas d'accord.
T'es pas d'accord. D'accord. On en reparle. Oui ou non? J'ai besoin d'un
oui. T'as dit quoi, Sarah?
Moi, d'accord. Je suis d'accord avec les propos de Comboiré.
Ah ouais,
c'est
non,
ça, la question.
Ah, on va certainement reparler, oui, effectivement, des propos d'Antoine Comboiré.
Oui, moi, je crois que je suis pas d'accord avec les propos d'Antoine Comboiré.
Elle n'est pas d'accord,
je te
Marie.
Confirme, c'est ce que t'avais noté. noté.
Ah, ok.
Voilà, il me semblait bien. Pascal Duprat.
Je suis pas d'accord avec ce que Antoine nous a dit.
Il n'est pas d'accord, Christophe Cessieux.
Et je suis d'accord avec ce que dit
Christophe
Antoine.
Christophe Cessieux, il est d'accord. Avant de vous donner la parole pour ce débat, on va se tourner vers Arnaud Valadon de la rédaction RMC Sport. Salut Arnaud.
Mesdames, messieurs, bonjour.
Hello.
Arnaud, ces reports, ils agacent de plus en plus de monde parmi les acteurs de la Ligue.
Il y a d'abord les contres, et ils sont plutôt nombreux. On commence par le coach de Montpellier, Michel Derzakarian.
Ça, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les matchs ont été remis. Pour moi, c'est... En Angleterre, ils jouent, les mecs. Dans tous les autres pays, ils rejouent tous les trois jours, les mecs. Je pense pas que ça fausse le championnat, parce que quoi qu'il arrive, en 15 jours, ils vont rejouer en semaine, hein.
Ça fausse pas, mais bon, plutôt contre. Priorité au championnat, c'est justement l'avis d'Antoine Comboiré, l'entraîneur du FC Nantes, 15e et premier non-barragiste.
La Ligue, faut qu'il fasse attention. Parce qu'en jouant à ce jeu-là, comment on fait en fin de saison? La Coupe d'Europe, ça vient après. Hein. J'aimerais voir le PSG gagner la Ligue des Champions. J'aimerais voir Marseille gagner la Ligue Europa, bien sûr. Moi, je défends mes clubs français hein, sur la Coupe d'Europe, sur la scène européenne. Mais d'abord la Ligue. Hein.
Pour trouver des coachs favorables à ces reports, il faut un peu chercher. Pierre Sage de l'Olympique Lyonnais, grosse écurie du championnat malgré tout, et cette saison ratée en tout début de championnat. Pierre Sage trouve que c'est une bonne initiative.
Je vais simplement vous dire que je trouve ça très bien pour le football français. Après, ça biaise un peu le championnat parce que j'imagine que les adversaires, je pense notamment à Lorient qui aujourd'hui est le premier relégable qui va devoir jouer un match en semaine et en rejouer un le week-end, ça ne leur crée pas les meilleures conditions pour se maintenir, notamment en termes de fatigue. Mais à un moment donné, il faut bien prendre des décisions. Certains en bénéficient, d'autres pas.
Le Havre, par le biais de son président Jean-Michel Roussy, a fait savoir qu'il s'opposerait à décaler son match contre Paris en cas de qualification du PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Sauf que c'est le conseil d'administration de la Ligue, composé à majorité de présidents, qui tranche ce genre de décision et qui peut donc imposer une date de report au club.
Merci beaucoup pour ces précisions. Arnaud, tu restes en studio avec nous pour t'insérer dans ce débat. Si tu veux participer. Marie Martineau, je commence avec toi. Tu n'es pas d'accord avec la position défendue notamment par Antoine Comboiré.
Non, je crois que le foot, comme tous les autres sports, on doit privilégier à un certain moment le très très haut niveau parce qu'il ruisselle sur les autres et que on a tous envie. Enfin, j'imagine que les fans de foot français ont tous envie de voir un club français performer à très haut niveau à la Coupe d'Europe.
Je crois que t'es pas allé à Marseille alors.
Non, je sais pas.
Est-ce qu'à Marseille, on a vraiment envie que Paris se qualifie mardi?
Oui, s'il y a un territoire en France qui...
M'embrouillez pas.
Ouais, tu peux piquer des poupées vaudou pour que le PSG perde.
C'est le même principe pour le Marseille-Nice. Mais, donc, je crois qu'on doit essayer de créer les meilleures conditions et favoriser, à juste titre, les plus hauts niveaux.
Oui, mais ça déséquilibre derrière, ça déséquilibre un championnat. Donc c'est là où j'ai du mal à concevoir qu'on fasse des reports parce que il y a des cas de force majeure, parce que il y a eu le Covid, parce que il y a des interventions des gilets jaunes et pour la sécurité du déroulement des matchs qu'on puisse les changer. Mais là en l'occurrence, c'est favoriser des clubs dans leur course à l'Europe au détriment d'un championnat qui lui en plus arrive en
fin. Je pense pas que ça soit au détriment d'un championnat tout ceci.
On laisse finir Sarah, je te donne la main Pascal.
Même si la première intention n'est pas au détriment, forcément que ce sera au détriment.
Oui, mais c'est des choix.
Mais encore une fois, en plus t'arrives, ce qui est problématique dans un agenda, c'est que t'arrives en fin de saison. Les championnats européens, en tout cas les derniers matchs arrivent en fin de championnat aussi nationaux, et qu'à un moment, les jours sont pas compressibles. Le Barça a joué hier, le Barça a gagné, a gagné à l'extérieur. Pourquoi je comprends pas en fait pourquoi on essaye de protéger ces trois clubs-là.
Est-ce que c'est les mêmes personnes qui comprennent pas ça, mais qui comprennent pas non plus que on aligne une équipe 2 ou 3 justement qu'on fasse tourner. Enfin,
je pense que c'est la meilleure manière de pas fausser le championnat. Parce que comme ça,
un Lorient PSG qui joue mercredi 24 avril et ils vont devoir rejouer le dimanche et ils auront joué le samedi d'avant. Forcément, un club qui essaie de se sauver. Qui donc n'a peut-être pas les ressources en termes de joueurs pour pouvoir faire tourner ou récupérer correctement.
Oui, mais Lorient peut se plaindre. Lorient peut se plaindre parce que le calendrier tombe comme ça. Mais par contre, toutes les autres équipes qui jouent le maintien, crois-moi, j'en connais un rayon en termes de maintien, toutes les autres équipes qui jouent et qui s'apercevraient si jamais le calendrier n'avait pas été aménagé que le Paris Saint-Germain met son équipe 2 sous prétexte que mardi elle joue un match capital, eh bien celle-ci elle se sent tout d'un coup défavorisée. Si Lorient avait joué contre l'équipe 2 ce jour, ou hier plutôt,
plus exactement. Une chance donc, d'aller gagner, de sortir un match nul ou de gagner et de se sauver.
Il y a deux choses à dire et à rectifier de mon point de vue. La première, c'est que tous les championnats européens le font, y compris les Anglais. Même s'ils le font moins, ça leur arrive de le faire pour privilégier la récupération et la compétition européenne. Et puis ensuite, ce sont les présidents de club qui en décident en tout cas des aménagements de
calendrier. Voilà, Pascal, on précise, Arnaud le rappelle dans son papier, c'est le conseil d'administration de la Ligue, donc les présidents qui prennent cette décision.
Probablement sur demande des clubs.
On leur demande,
sur demande des clubs.
Roussier, il n'est pas trop d'accord, hein. On ne lui a pas demandé son avis et on va lui imposer sans doute...
Ce que je veux dire, et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec Antoine, mais cela dit, j'approuve Antoine, il a encore fait preuve de courage, parce que lui, ça a l'avantage. Lui, il joue ce week-end, et pendant que Lorient jouera 3 matchs dans la semaine, puisqu'ils joueront un mercredi contre le Paris Saint-Germain. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire, pour le championnat de France, qu'il faut promouvoir, parce que tout le monde dit que le championnat de France est faible, vous l'avez dit en début d'émission, Christophe, le championnat de France est faible, il y a que le Paris Saint-Germain, ils ont pas de mérite à gagner, c'est faux, tout ce que tu dis. Malheureusement, t'as qu'à demander à Messi d'ailleurs s'il a trouvé le championnat de France très faible quand il est venu. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un indice UEFA. Cet indice UEFA, il est calculé sur les performances en Europe des clubs français. Donc on peut pas tout d'un coup dire à nos dirigeants.
Mais c'est Nantes, ça leur fait pas une belle jambe.
Et pourquoi pas? Et ça leur arrive de temps à autre d'être Nantes a bien joué la Coupe d'Europe en gagnant la Coupe de France. Tout ce que je veux, ça pourrait peut-être venir, c'est possible pour tout le monde. On a déjà réduit le nombre de d'équipes en Ligue 1 à 18, ok? Donc bon, si on favorise le PSG, Lille ou Marseille sous prétexte qu'ils ont un match à jouer très important en quart de finale retour de leur Ligue Europe respective, moi je trouve que c'est promouvoir la Ligue 1 également. C'est pour ça que je suis pas d'accord.
Je veux dire, c'est tellement rare en plus que les clubs français arrivent à passer plus qu'un tour dans les Coupes d'Europe qu'effectivement, il faut promouvoir le petit commerce et il faudrait peut-être les aider. Tu as raison.
Je pense que c'est une très bonne initiative de la part des dirigeants. Arrêtons de vilipender les dirigeants du foot français, s'il vous plaît.
Mais bon, Pascal, tu sais aussi, puisque tu as été dans cette situation, qu'un club qui est en difficulté, qui joue sa vie dans les semaines qui viennent. Oui. C'est pas uniquement en termes sportifs, c'est aussi en termes économiques, en termes sociaux, parce que quand t'es relégué, t'es obligé de virer des gens, t'es obligé de réduire ton train de vie. On peut aussi comprendre que ces gars-là jouent leur vie et qu'ils ne comprennent pas pourquoi on favorise des gros à leur détriment. Tu vois, c'est aussi humain quand même.
Pascal, tu ferais quoi dans cette situation?
Mais ça m'est arrivé bien souvent.
Tu acceptes.
Je me souviens une fois où c'était celui qu'on a dit le génie du foot, l'entraîneur marseillais argentin. Un coup, il avait mis pas de défenseur parce qu'il avait un match de Coupe d'Europe, contre Lorient. Il a perdu 5-3 à domicile. Et moi, j'étais avec mon équipe, je crois, de l'ETG. On ramait pour se maintenir. Donc, crois-moi, ça m'a vraiment fait chier. Tu vois, tu comprends l'histoire. OK? Mais qu'est-ce que tu veux? C'est le football. On ne prête qu'aux riches, point barre. Et le fait que le foot français soit tiré vers le haut, parce que, comme l'a dit Christophe, c'est rare de voir trois équipes qui sont encore en lice pour se qualifier pour les demi-finales de leur Coupe d'Europe respective. Il faut leur donner un maximum de chances pour qu'elles réussissent. Parce que ça fera du bien à notre football français.
Mais Christophe prend l'argument du financier, de ces clubs qui rament un peu en fond de classement et tout. Oui. Mais on est d'accord que plus les grands clubs français vont monter et faire des matchs de plus en plus haut jusqu'à rejoindre des finales, plus il y aura d'argent qui va ruisseler aussi en termes de.
Surtout dans la poche de ceux qui sont
qualifiés.
J'ajouterais aussi une dernière chose. Quand Lorient va jouer un mercredi contre le Paris Saint-Germain, si le Paris Saint-Germain est qualifié, peut-être qu'elle va faire l'économie de ce match-là, puisque Paris Saint-Germain fera peut-être l'économie de ce match-là en mettant une composition d'équipe pour le moins hybride, qui favorisera les desseins de Lorient.
Je te comprends pas, Pascal.
C'est comme ça. Le Paris Saint-Germain, Lille et Marseille. T'étais
en train de me faire changer d'avis.
Merde.
Mais t'étais en train de me faire changer d'avis.
Non, je me suis pas embrouillé, je vais retomber sur mes pattes, t'inquiète.
J'étais en train de rejoindre ton avis. Mais alors là, sur le coup de Lorient, sincèrement, même si ce match avait eu lieu ce week-end, peut-être que là aussi le PSG aurait mis des joueurs au repos pour pouvoir être prêt mardi prochain.
La glorieuse incertitude du sport.
C'est la même chose.
On va poser la question à un supporter pour voir comment c'est accueilli cette décision. On accueille Lionel. Bonjour Lionel, merci d'avoir fait le 32-16.
Bonjour messieurs, merci de m'accueillir à l'antenne.
Salut.
Et
en tant
que Dijonais, je voudrais saluer le coach Pascal.
Merci. Nous sommes avec Sarah et Marie. Lionel, comment tu te places toi dans ce débat?
Le camion entraîné Dijon.
Oui.
Pourquoi pas s'il y a une place.
On peut en parler si ceux qui étaient en tête du championnat avaient fait le boulot. Dijon serait maintenu. Voilà,
peut-être. Lionel, d'accord ou pas d'accord avec Antoine Comboiré notamment?
Évidemment d'accord. Alors évidemment, on peut pas résumer ça en trois mots, mais la première des choses, c'est que il y a une logique. Qu'est-ce qui permet d'être qualifié en Champions League, en Coupe d'Europe ou de jouer le maintien? C'est le championnat. Donc c'est ça qui permet. Donc dans l'ordre des choses, ça devrait être le plus important. Ça, c'est purement de la logique. Ensuite, je crois que c'est Pascal qui en parlait, on a réduit à 18 équipes. Donc si en plus, c'est déjà plus difficile pour les équipes les plus faibles, mais si en plus on aménage le championnat en fonction des grosses équipes, on va pas s'en sortir. Donc à faire un tournoi à 5 et puis terminer.
Certains le volent.
Alors attention. Il y a une chose dont on ne parle pas, si on veut valoriser la Ligue 1, je suis désolé, je suis obligé de parler de l'arbitrage, parce qu'on voit bien que les équipes, je parlais du PSG, lèvent le bras au ciel en Champions League quand il y a soi-disant faute, parce qu'en championnat de France, c'est sifflé d'une manière abusive. Et en Ligue des Champions, c'est pas le même
là,
niveau.
On sort un petit peu de notre débat.
Ouais, c'est un autre débat, mais c'est très vrai.
Attention, je précise aux auditeurs que c'est un peu dangereux de faire le 32-16 pendant qu'on fait son jogging. Hein. Lionel, on se gare sur le chemin pour nous appeler. Attention, tout de même.
Ouais, je compte bien être titulaire au DFCO.
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait le 32-16. Lionel, d'être venu donner votre avis dans ce débat. Les reports, je vous le rappelle, Lorient PSG, Marseille Nice, Monaco Lille qui compte pour cette 29e journée, qui sont donc décalés à mercredi 24 avril prochain. Ah bon, et il va falloir se qualifier. Nos trois clubs, ils ont perdu au match aller. David nous précise sur l'application Direct Studio que le Barça et le Real avaient été eux épargnés le week-end qui précédait les matchs aller, parce que donc preuve qu'en Espagne aussi on protège un petit peu les clubs avant la Coupe d'Europe. Merci beaucoup Arnaud Valadon d'être passé par les grandes gueules du sport ce matin pour nous apporter toutes ces précisions. Vous ne bougez pas, on revient dans quelques instants, histoire de se préparer un petit débat caché. Mais GG,
oui.
À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
Il est 11h26 en ce dimanche 14 avril. Vous êtes bien sûr RMC, les grandes gueules du sport, en direct jusqu'à midi, en compagnie aujourd'hui de Marie Martineau, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Pascal Duprat. Dans un quart d'heure, tonton Cessieux nous dira que c'était mieux avant, n'est-ce pas? Mon cher Christophe, de quoi vas-tu nous parler ce matin?
De Michel Jazzy, ça dit quelque chose?
Oui, c'est les années 60, ça. C'est,
bien, pas mal. C'est là, t'es bien. C'est là, t'es pas mal. Ils faisaient quoi? Ils faisaient du judo,
du badminton? Demi-fond, non?
Demi-fond, ils faisaient du sable.
C'est bien.
Voilà, écoute.
Ils faisaient du 800 et du 5000. Sarah a bien travaillé.
Allez, on va attacher notre serviette autour du cou, on se régale par avance. Mais d'ici là, le petit débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Combinaison de Novak Djokovic face à Casper Ruud, 6-4. Un 6-6-4 avec une troisième balle de match hallucinante. C'est une double faute, mais de 50 cm frappée par Novak Djokovic qui quitte sous mes yeux le court sous l'ovation du public. Mais bon, il y a pas mal de questionnements à propos de Djokovic. En tout cas, donc la finale est connue. Ruud, Tsitsipas, s'attendait à tout sauf à ça.
Et oui, pas mal de questionnements. Vous l'avez vécu hier sur RMC. On attendait une finale Djokovic-Sinner. On aura du Ruud, Tsitsipas, puisque l'Italien et le Serbe ont été éliminés hier en demi-finale du Masters 1000. de Monte Carlo. Eric Salio, évidemment, était aux commentaires. Alors, même si le Joker n'avait plus atteint le dernier carré en principauté depuis 2015, sa défaite face à un adversaire qui ne lui avait encore jamais pris un set en 5 confrontations est une surprise. Dans la lignée d'un début de saison où le Serbe n'a encore remporté aucun titre, je vous pose cette question comme débat caché, les GG. Novak Djokovic est-il toujours le patron du tennis mondial, oui ou non, Sarah Pitkowski?
Non.
Non pour Sarah. Oui, bah on cache sa déception, les GG, on se calme, Marie Martineau.
Et tu veux dire sur ce tournoi,
le patron du tennis mondial, il est numéro un mondial. Est-ce qu'il est toujours après la saison impressionnante qu'il a réalisée? Est-ce que c'est toujours lui le patron? Oui ou non, Marie Martineau?
Non.
Non, Pascal Duprat.
Oui. 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 Oui.
Christophe Cessieux.
Oui.
Oui pour Christophe. On rappelle, hein, 40 titres en Masters 1000 pour le Serbe, c'est un record. 24 titres en Grand Chelem, c'est un record. Et bon, il est quand même toujours l'épouvantail dans chaque tableau. Sarah, pour toi, c'est terminé. Le patron, c'est qui si c'est plus Djokovic?
Oh bah aujourd'hui, depuis le début de la saison, sans aucune Sinner, et même pas depuis janvier 2024, depuis le dernier trimestre 2023, aujourd'hui, c'est Yannick Sinner sans aucun. Sans aucun doute, c'est lui le patron.
Il est plus fort ou c'est Djokovic non, qui est moins fort que l'an dernier?
Alors, les deux, en général.
D'accord.
Je pense que Djokovic a perdu une forme de densité. La fin du match hier, où il termine sur une double faute, c'est pas du standard de Djokovic.
Pas du Djoko.
C'est pas du Djoko. Je pense qu'il a un petit peu plus de mal aujourd'hui à serrer le jeu. Dans les moments importants où il était, c'était un Iron Man, quoi, un Superman. On comprenait.
C'était jamais une faute.
C'était du jamais vu. Il perdait quasiment jamais aucun tie break. Dès qu'il fallait serrer le jeu, tu te dis mais d'où il sort ces coups-là? Et ben, il devient un peu plus humain. Donc, ce qui a un petit peu plus de fatigue, de lassitude. Et puis, ben, comme le niveau se rapproche, et ben, il y a la petite brèche, elle est exploitée par certains joueurs. Mais sans aucune mesure, Yannick Sinner aujourd'hui est un joueur qui va finir numéro un mondial s'il continue comme ça.
J'ai l'habitude d'avoir des objectifs très élevés en termes de résultats. Alors, le fait de ne pas avoir encore gagné de titre n'est pas tout.
Depuis trois mois.
Un bon début de saison, si l'on compare à ses 15 dernières années, a-t-il déclaré hier après sa défaite. Il a ajouté, mais j'ai joué des demi en Australie. Et ici, je n'ai joué que 3 tournois cette saison. Il avait été éliminé au deuxième tour, hein, à Indian Wells. Et il faut bien, précise-t-il, s'attendre à traverser une saison où l'on ne débute pas bien. C'est celle-là, c'est le constat qu'a fait le Serbe hier. Pascal, pour toi, ça ne remet pas en question sa domination.
Déjà, je regarde le classement, donc je m'aperçois qu'il est toujours numéro 1. Donc je comprends pas ta question. Et puis ensuite
non
voilà.
Non, à la race
et puis ensuite il a joué 3 tournois, il a fait 2 demi-finales. Et puis, tiens, je vais comparer, parce que c'est l'info, tu l'as dit tout à l'heure, l'info de la semaine, le Paris Saint-Germain à Barcelone. Mbappé, il était nul au match aller, il était transparent, tu verras au match retour. Et Djokovic, ça va être pareil. C'est-à-dire que Djokovic, il va se réveiller, il va avoir digéré le fait qu'il a pas d'entraîneur, enfin bref, et puis, pour les tournois qui nous intéressent, et notamment Roland-Garros, il va être fin prêt. Voilà ce que j'en dis. Tout simplement.
Alors, très bien, Marie n'est pas d'accord avec toi.
Moi, je suis un peu alignée avec Sarah, mais parce que de manière générale, quand tu as atteint un tel niveau et que tu as rayonné comme ça et que tu as dominé comme ça sur ta discipline, si la question c'est de savoir s'il est autant dominateur et s'il est toujours le joker qu'il a été, je crois faire le même constat que Sarah, qui n'est pas une position facile à défendre, puisque comme le dit Pascal, il est toujours numéro un mondial et on n'enterre pas un Djokovic en 3 mois et qu'évidemment, il va y avoir des rebonds et tout ça.
C'est pourtant, c'est ce que tu as.
Je suis en train de
remettre la terre dessus. T'as planté la croix là.
Pas du tout. Je dis juste que effectivement, il n'est pas seul au monde. Il vit dans un écosystème avec d'autres athlètes qui sont monstrueux, qui montent en puissance, qui sont plus jeunes, et que j'ai l'impression d'un inversement des tendances, d'un inversement des dynamiques, et pas vraiment en la faveur de Djokovic.
Je me dois d'apporter une précision, certes, au classement sur 12 mois, Djokovic a encore les points, il est numéro un mondial, mais le classement, la race qui permet de sélectionner les joueurs au Masters en fin d'année, Djokovic est 8e à la race, Yannick Sinner est très 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 loin devant. Donc on a deux types de classements, voilà.
La race, on précise, c'est le classement qui
sur une année civile.
Sur une année, voilà.
Une année civile, c'est l'accumulation des points sur une année civile.
Et en tennis, l'année civile, elle est quasiment calquée sur la saison. On peut dire que la saison de tennis, elle commence quasiment au début janvier en Australie, non?
Oui, tout à fait, tout à fait.
Le
Christophe, c'est toujours le patron.
C'est le petit jeu préféré des médias, et pas seulement des médias, d'enterrer toujours celui qui est au sommet. Regarde, tout à l'heure, on a essayé.
Tu peux dire des journalistes.
Mais bien sûr, dont moi je fais partie. J'adore enterrer tous ces mecs-là pour mieux qu'ils ressurgissent quelque part. Nadal, on l'a fait. Bon, en l'occurrence, il est vraiment pas au top. Federer aussi, et dans d'autres sports aussi. Moi, ce Djokovic, il est quand même fait d'un autre métal que les autres, et je ne l'enterrerai surtout pas à la va-vite. Voilà. Il a peut-être un petit problème, on l'a compris, en s'étant séparé de son entraîneur, il a peut-être besoin de retrouver un nouveau souffle, mais n'enterrons pas trop vite le Djoko qui renaît souvent de ses cendres, et les cendres sont encore chaudes, donc attention à lui.
Ah oui.
Il peut remporter Roland Garros, Sarah ?
Absolument. Oui, non.
Plus, la terre battue, c'est quand même pas. Il est bon, hein ?
Bon, en fait, c'est fait taper par Tsitsipas. Oui, d'accord, mais il est bon partout. Il est bon partout. Non, bien sûr qu'il peut. De toute manière, les cinq dernières années, Djoko se concentrait sur les grands rendez-vous. Les grands rendez-vous, c'est Grand Chelem, Master 1000. Et effectivement, sur les 15 dernières années, il n'a jamais été aussi malmené ou hors forme sur un premier trimestre où il y a déjà eu, un Grand Chelem, Indian Wells, Key Biscayne, Monte Carlo. Il y a déjà eu des Master 1000.
Tu miserais une finale Djokovic-Nadal à Roland Garros?
Non. Déjà, ça dépend du tirage au sort. Oui. Mais il est totalement capable de le faire.
Non, mais tu crois plus à au maintien de Djoko en tête qu'à la résurrection de Nadal?
Ah oui.
Ah bon?
Oui, mais il y a pas que comme adversaire de Nadal ou de Djokovic, ils ne sont pas leur unique adversaire. Aujourd'hui, sincèrement, Yannick Sinner, oui. Tsitsipas qui revient.
La concurrence est nombreuse. Je le reconnais. Oui.
Elle a la place pour se placer.
Plus nombreuse que. Mais avant, c'était mieux la concurrence, elle était masquée parce que tu avais trois phénomènes.
Oui. Exactement.
Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Il n'y a plus que Djoko.
Sarah, très rapidement, la rupture avec son coach Goran Ivanišević, c'est anecdotique ou ça peut justement laisser des traces sur la saison? Ça peut expliquer son début de saison chaotique parce qu'on imagine qu'il y avait un peu d'eau dans le gaz. Ils ont parlé
Je pense que c'est la conséquence du fait que le discours passait plus. Il est épuisant, Djoko. Hein. Qu'est-ce qu'il envoie sur ses entraîneurs? C'est des punching balls, quoi. Donc je pense que
lui envoyer du bras, tu vois, il va comprendre.
Ouais. Quand on a 35, il est insultant sur le court. Donc je pense que ça fatigue. Et le joueur et l'entraîneur, et il y a un moment où il faut se donner un peu une bulle de respiration. Ivanišević, il en a pris plein la figure pendant.
C'est plutôt Ivanišević qui est parti ou
non,
c'est
je pense qu'ils se sont mis d'accord.
Il a déclaré lui aussi, il a son franc-parler, Goran, on adore, il a dit il y avait de la lassitude des deux côtés.
Ça c'est diplomatique en fait.
Il reste à la maison, hein. C'est Nenad Zimonjić qui aujourd'hui fait office de punching ball, parce que je ne suis pas sûre que tu apprennes grand-chose à Djoko, ni sur la tactique, ni sur la technique, mais je pense qu'il a besoin de quelqu'un qui ait un regard professionnel sur son jeu.
Mesdames et messieurs, je vous interromps, c'est le moment de faire un ou une heureuse. C'est une heureuse, en l'occurrence. Il est 11h40, nous accueillons les 11h36, pas tout à fait 11h40, mais bon, on a déjà une gagnante. Bonjour Léa.
Bonjour.
Et félicitations, gagnante des deux places qu'on met en jeu dans les Grand Gueule du Sport pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Félicitations.
Merci.
Alors, sur RMC, on vous laisse le choix, en plus, à vous les gagnants. Le choix entre deux épreuves. Ce matin, dans les Grandes Gueules, on vous propose soit deux places pour assister aux demi-finales de natation, la finale du 400 mètres nage libre hommes et femmes, ce sera le 27 juillet à Paris, ou deux places pour assister aux demi-finales, finale hommes et femmes d'athlétisme, le 5 août prochain à Paris. Qu'est-ce que tu choisis, Léa?
Je pense que j'ai choisi l'athlétisme.
L'athlétisme, l'épreuve reine, la discipline reine des Jeux Olympiques. Bravo, félicitations Léa. Avec qui comptes-tu y aller? Est-ce que tu as déjà eu le temps d'y penser?
Non, pas trop. Peut-être ma maman, je pense.
Ah,
Parfait, très bon choix.
À l'athlétisme avec maman. Formidable.
Ouais. Génial.
Léa, sportive du dimanche, du samedi, de la semaine, amateur, oui?
amateur, un peu des deux, de la semaine et du week-end.
Bon, quelles sont les disciplines, tes disciplines favorites?
La course à pied, sinon un peu de foot.
Bien.
Bien,
on s'en entend. Il faut écouter, le c'était mieux avant dans quelques instants de Christophe Cessieux.
Eh ben exactement. J'allais inviter Léa à rester avec nous. Léa, gagnante des deux places mises en jeu aujourd'hui dans la grande gueule du sport pour les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci beaucoup et félicitations, Léa. Encore une fois.
C'est classe, hein, comme ça, de se réveiller dimanche matin. Paf, tu passes un coup de téléphone.
Elle est pas belle la vie. On appelle les deux places pour les jeux et on repart avec des tickets, on est comme ça nous sur RMC. Vous ne bougez pas, 11h38 dans quelques instants, c'est la rubrique que vous attendez tous, le récit de Tonton Cessieux. On va parler d'un certain Michel Jazzy. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
11h40, la dernière ligne droite des grandes gueules du sport sur RMC, toujours en compagnie de Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Sarah Pitkowski, Marie Martineau. À midi, place au Paris RMC, on parlera notamment de cet alléchant Lyon-Brest en clôture de cette 29e journée en attendant les trois matchs reportés du 24 avril. Mais pour l'instant, la rubrique traditionnelle du dimanche, celle que vous attendez tous avec impatience, le récit de Christophe Cessieux, c'était mieux avant.
Les GG.
Tatopek démarre à son tour et passe les trois hommes. Mimoun reste dans sa foulée. C'est une empoignade extraordinaire.
Jesse Owens. Il arrive au premier flash avec un temps de 10 secondes et 3 dixièmes.
Marito Zeperek qui revient à la hauteur de Brisguida. C'est le champion de la Ligue.
C'était mieux avant.
Christophe, on poursuit avec toi ce voyage dans le temps, hein, commencé cette saison dans le temps olympique. On s'arrête en quelle année aujourd'hui ?
On s'arrête en 1964.
Ah bon.
Ce 18 octobre 64, eh bien, en ouvrant les rideaux de sa chambre du village olympique et en découvrant les trombes d'eau qui s'abattent sur Tokyo, Michel Jazzy n'a qu'une envie, c'est celle d'aller se recoucher. Ce jour d'automne a pourtant été inscrit de longue date et en rouge sur son petit calepin, c'est aujourd'hui que l'athlète français a rendez-vous avec son destin. C'est cet après-midi qu'il doit devenir champion olympique. À 28 ans, la France entière n'attend que cela. Jazzy, sa foulée élégante et ses grands yeux bleus timides est le chouchou des Français de ce début des 60s. Plus populaire même que Jacques Anquetil, qui vient pourtant de remporter son 5e Tour de France. Jazzy, tout le monde se l'arrache. Il fait la une des magazines People, s'affiche dans les émissions de télé avec les stars de la chanson, les Claude François et autres, Marcel Amont.
Avouez qu'aux côtés de Michel Jazzy, il a fort belle allure.
Ça va Marcel ?
Ça va, en pleine forme.
Et vous Michel ?
Merci beaucoup Michel. Au revoir, à bientôt.
La relation nouée avec ses compatriotes est telle que, 10 mois plus tôt, le 31 décembre 63, il fait partie des quelques têtes d'affiche choisies par le RTF pour présenter ses vœux aux Français. Et le vœu le plus cher de Jazzy, c'est celui-là.
Je souhaite à tous les Français pour l'année 64 que, au mois d'octobre, tous les sportifs français, ceux qui représenteront la France aux Jeux Olympiques de Tokyo, vous fassent bondir de votre fauteuil de joie et non pas de déception.
Que de chemin parcouru en 28 ans par le petit Mikhail, fils et petit-fils de mineurs d'origine polonaise débarqués dans le nord de la France juste après la Première Guerre mondiale. Mais plus que de devenir l'une des stars de la France du général, le destin de Jazzy aurait dû le conduire au fond de la mine, comme tous les enfants des gueules noires. Mais la roue du destin va le conduire ailleurs. Passionné de sport, il pratique tout d'abord le foot qu'il exerce par passion, mais sans talent, avant d'opter pour la course à pied, où là, sa classe va vite parler. En 1956, à 20 ans, il décroche son premier titre de champion de France, battant au passage Michel Bernard, un ch'ti comme lui, qui va devenir son ennemi déclaré. Ce titre permet à Jazzy de faire le grand voyage pour Melbourne où il participe en 56 à ses premiers Jeux Olympiques après un voyage de 7 jours dans le Super Constellation où Alain Mimoun le prend sous son aile. Des Jeux pour découvrir et apprendre. Mais 4 ans plus tard à Rome, Jazzy cette fois-ci est mûr et va décrocher une première médaille olympique, l'argent sur 1500 mètres, derrière l'intouchable Australien Herbert Elliott.
Enfin, un sujet de satisfaction pour les Français dans la finale du 1500 mètres olympique. Derrière l'Australien Elliott, inaccessible, le Français Michel Jazzy prend la seconde place et donne à la France sa première médaille d'argent dans les épreuves d'athlétisme. Elliott bat son propre record du monde, 3 minutes 35 secondes 6 dixièmes. Jazzy bat le record de France, 3 minutes 38 secondes 4 dixièmes.
Oui, j'ai terminé second. Derrière l'invincible Herbert Elliott, l'Australien, je dois reconnaître que ce garçon, il a terminé sa carrière invaincu sur 1500 mètres. Il n'a jamais connu la défaite. Malgré tout, même avec ma plus grande forme, j'aurais pas pu le battre.
Si Jazzy n'a rien pu faire contre Elliott, il devient ce jour-là la coqueluche des Français, décrochant l'une des 5 malheureuses médailles de la délégation tricolore qui rentre de Rome sans aucun titre olympique. Une première dans l'histoire, cette médaille d'or qui va désormais devenir l'obsession de Jazzy.
Après la médaille d'argent des Jeux de Rome, je n'ai fait que penser à la médaille d'or des Jeux de Tokyo. D'énormes sacrifices, à la fois familiaux, des sacrifices d'entraînement, des sacrifices de la vie. Et quand on a 24 ans...
Jazzy, le record de... Et les sacrifices de Jazzy portent leurs fruits. Les médailles nationales et européennes s'accumulent sur sa cheminée pendant que les records d'Europe puis du monde commencent à tomber. C'est le cas en 62 où il établit la meilleure perte de l'histoire sur 3000 mètres. Invincible
cette année. Cette semaine, grâce à la télévision, la France tout entière a pu encourager Michel Jazzy. Celui-ci battait en effet mercredi de façon magistrale le record du monde du 3000 mètres en 7 minutes 49 secondes 2 dixièmes.
Jazzy, qui a 26 ans, n'est pas un homme exceptionnel, ce n'est pas un monstre. Ses qualités, il les a acquises grâce à sa volonté. Jazzy est un amateur, il ne mène pas une vie de milliardaire. Chaque jour, il se rend à son journal où il est typographe et c'est là qu'il a lui-même mis un point final à son dernier exploit en composant la page qui relate son extraordinaire performance.
La France s'emballe et les GG du sport de l'époque, GG Premium évidemment, qui s'appelle Chapat, Couder et autres Marciac, débattent à la télé de la possibilité du titre de Jazzy à Tokyo en 64.
Pourra être champion olympique.
Pour l'instant, oui. Si tout se passe comme prévu, Jazzy peut être champion olympique à Tokyo. Ce serait formidable.
Rien ne semble désormais impossible à l'athlète français Michel Jazzy qui bat les records du monde sur commande. Et le miracle dans tout cela, c'est que Jazzy n'a rien d'un Superman. Jazzy, c'est monsieur tout le monde avec un petit quelque chose en plus, c'est-à-dire le cran et le désir de vaincre. On ne sait pas jusqu'où ira Michel Jazzy, sûrement vers un titre olympique l'année prochaine.
Et un an plus tard, à la fin de l'été 64, le Français est en forme, en témoigne sa performance lors du 5000 mètres du match France-Grande-Bretagne à quelques semaines des Jeux.
Il lève la main, Jazzy a gagné et Jazzy gagne vraiment très 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 facilement.
Sa forme est telle qu'il envisage même de doubler 1500 et 5000 mètres à Tokyo où sa présence inquiète les autres favoris, notamment Peter Snell, futur champion olympique, qui avait assuré à ses proches que si Jazzy s'alignait sur le 1500, il n'y participerait pas. Mais en ajoutant une série au 1500, les organisateurs des Jeux vont forcer Jazzy à faire le choix du 5000 mètres.
On prétend que vous n'avez encore pas fait vos preuves sur cette distance avant les Jeux, ça inquiète un peu vos supporters.
On peut prétendre tout ce que l'on veut, on ne peut pas se mettre dans la peau d'un athlète. Moi j'ai bon espoir, oui.
En arrivant au stade olympique, ce 18 octobre, Jazzy constate ce qu'il craignait le matin. La piste est gorgée d'eau, des flaques partout et une cendrée détrempée qui ne correspond pas à ses qualités. D'autant que le Français n'est pas dans son assiette. Non, la faute à cette foutue insomnie qu'il a tenu éveillé une grande partie de la nuit.
En principe, j'étais assez calme avant les épreuves, mais là, je n'ai pas dormi du tout de la nuit. Je sais pas, hein, peut-être le poids des responsabilités.
C'est ce que l'on appelle la pression. Oui, Jazzy se s'est attendu, il n'a pas le droit de décevoir. Il doit devenir champion olympique. Personne ne comprendrait qu'il ne soit que médaille d'argent. L'après-midi débute à Tokyo, alors qu'en France, c'est encore le tout petit matin. Et à cette heure-là, pour écouter les exploits de Jazzy, quoi de mieux que la radio ?
Au 5000 mètres, non seulement les Français, mais tous les spécialistes du monde entier n'avaient Dieu que pour Michel Jazzy, en maillot foncé au milieu du peloton.
Le coup de feu du starter retentit. Les 11 athlètes s'élancent à la poursuite de leur rêve doré, une course qui va mettre du temps à se décanter. Le rythme est lent, uniquement troublé par les attaques de Ron Clark, auxquelles Jazzy répond invariablement, de peur de voir l'Australien s'envoler. On approche désormais du dernier tour. Jazzy est en tête et va produire son effort un poil trop tôt.
Mais je suis parti beaucoup trop tôt.
J'aurais dû attendre la ligne opposée, 250 mètres de l'arrivée. Jazzy
accélère, Jazzy a démarré, Jazzy est parti, Jazzy a 2 mètres d'avant, il a le temps de son avant, Jazzy va-t-il gagner ? Allez Jazzy, allez Jazzy.
À 200 mètres de l'arrivée, j'étais bien et il s'est dans la poche. Ah, je me voyais déjà, mais enfin.
Revient.
À 50 mètres de l'arrivée, et je me suis retourné, j'ai vu qu'il y avait mon adversaire numéro 1 se ramener vers moi. Pour moi, c'était une détresse terrible et c'était le début d'une agonie qui a duré 50 mètres. Je pensais que j'étais en train de grimper l'Himalaya.
Revient, le
j'avais des poids de 10 kilos sur la jambe.
C'est pas possible, ça.
C'est Schulz qui a gagné. Schulz a gagné en 14-19. Jazzy a bien démarré, mais c'est Schulz qui a gagné. Deuxième Norfolk.
Pour qu'un gars comme Norfolk me batte au sprint, il faut que j'en ai marre. Hein.
Troisième, l'Américain Dellinger. Et Michel Jazzy est quatrième. Évidemment, c'est une très grande déception.
Jazzy perd la course qu'il ne fallait pas perdre, mais qu'importe, il a donné le meilleur de lui-même. Schulz, le vainqueur, sera le premier à le consoler.
Pour moi, c'était ma dernière compétition internationale et ce qui m'importait plus, c'est la médaille d'or, le reste, ça m'intéressait plus.
Le ciel s'abat sur la tête de Jazzy et des Français qui ont écouté la course à la radio et partent au travail le cœur gros. L'athlète tricolore, adulé la veille, devient persona non grata à Tokyo où les officiels le fuient. Quant au journal L'Équipe, pour lequel il travaillait il y a encore peu, il n'est pas tendre et titre en une « Capitulation de Jazzy à 80 mètres du but » pendant que Jacques Godet, son directeur, taxe le champion déchu de mauvais perdant pour ne pas s'être accroché une fois battu pour l'or. Déprimé, Jazzy s'attend à recevoir des tomates pourries à son retour à Orly avec la délégation française. Il n'en sera rien. Au contraire, des milliers de Parisiens vont venir l'accueillir pour le consoler. Dans la foulée, une initiative est même lancée à la télévision.
Gilbert Richard, un petit garçon, qui a été tellement ému quand il a vu que Jazzy n'avait pas eu de médaille, qu'il s'est dit que certainement il y avait des quantités d'autres petits garçons et de petites filles qui, eux aussi, avaient été émus. Alors il s'est dit, bien voilà, on va leur demander d'envoyer une médaille à Jazzy sous forme d'un petit dessin. Et là, vraiment, ça a dépassé nos espérances.
Vous avez reçu des milliers de lettres.
Oh là là, des dizaines de milliers.
Ce paquet de bonbons a une histoire. Parmi tout ce qu'a pu recevoir Michel Jazzy, une des choses qui lui est allée le plus droit au cœur, c'est ce cadeau, accompagné d'un petit message d'un bout de chou de 6 ans qui lui écrivait « Moi, quand j'ai de la peine, ma maman me donne un bonbon ».
Cet élan du cœur des enfants qu'il aime tant va remettre le champion sur pied. L'année suivante, en 65, Jazzy vole sur les pistes, battant pas moins de 4 nouveaux records du monde, dont celui du mile, qui se déroule un soir de juin, en pleine émission des Jeux sans frontières. Son présentateur va même accepter de s'interrompre quelques instants pour laisser un jeune reporter, dont vous allez reconnaître la voix, commenter la course.
La télévision étant un art du direct, nous allons passer à un autre événement. En effet, actuellement à Rennes, le coureur Jazzy va tenter de battre le record du monde du miles.
Ici, Rennes, à vous, Rennes. Où la tentative de Michel Jazzy contre le record du miles est maintenant engagée. Et je crois que Jazzy va battre le record du monde. C'est un exploit colossal qu'a réussi ce soir Michel Jazzy.
Eh bien, Michel Jazzy, il nous reste maintenant à féliciter Michel au nom Jazzy, de toute l'équipe et de tout le jury de Jeux sans frontières. Il nous reste à féliciter le nouveau recordman du monde, Michel Jazzy.
Oui, c'est bon Thierry, on a compris. Hein, place aux Jeux sans frontières, tu auras l'occasion de reparler. Pourtant, cette popularité ne l'empêchera pas l'année suivante de mettre un terme à sa carrière, battant un 9e et dernier record du monde pour son ultime course. 9 records du monde, assorti de 18 chronos européens. 43 Français, n'en jetez plus, les coupes sont pleines et font de Jazzy le plus beau palmarès de l'histoire de l'athlétisme français en termes de chrono. Car tout au long des 60 années qu'il lui restera à vivre, à chaque fois qu'il croisera un journaliste ou un fan, il lui sera rappelé cet après-midi d'octobre 64, cette pluie sur Tokyo, ce démarrage bien trop tôt et ses 50 mètres en enfer. Il est des défaites qui font plus pour la renommée d'un homme que tous ses succès. Ce jour-là, à Tokyo, Michel Jazzy n'a pas gagné, non, mais il a décroché à jamais ses galons de loser magnifique.
Merci beaucoup Christophe Cessieux qui nous fait remonter l'histoire, le temps olympique dans C'était mieux avant, chaque dimanche dans les grandes gueules du sport. On a quelques secondes pour en parler. Pascal, je sais que toi Michel Jazzy, ça te parle, tu avais été très attentif notamment dans le teasing de l'émission ce matin. Qu'est-ce que ça évoque pour toi?
Un grand champion qui malheureusement a pas touché le Graal, mais la France ne lui en a pas voulu, les sportifs l'ont adulé tout au long de sa carrière et même après, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Et puis encore une fois pour saluer Christophe qui est vraiment un artiste et qui a l'art de raconter.
Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ce régal, tous les C'était mieux avant sont disponibles, on le rappelle aux auditeurs, en podcast sur l'application. Marie, Sarah, rapidement, qu'est-ce que ça vous évoque?
Alors moi, ça m'a rappelé un autre souvenir. Merci de nous avoir raconté cette histoire, je ne connaissais pas. Et en fait, c'est quand tu arrives sur le moment où la presse s'acharne un petit peu sur lui à Tokyo et post-Tokyo. Ça m'a rappelé l'histoire de Jason Lamichapuis, qui avait été champion olympique en 2010 à Vancouver en combiné nordique avec une course avec une épopée folle et qui avait vraiment marqué les esprits, et ça avait fait de lui le porte-drapeau des Jeux Olympiques 2014 à Sochi. Et ben, personne ne le savait, mais il avait des grosses difficultés personnelles à la maison, mais comme c'est un grand champion et qu'il n'a pas souhaité en parler, il est allé quand même porter son drapeau. Il savait que ce serait compliqué et il n'a pas réussi sa course, il s'est fait lyncher, c'était insoutenable. Et voilà, j'avais trouvé que la presse avait été très très dure à l'encontre d'un compatriote et d'un être humain, quoi. Et j'imagine ça n'a pas été simple non plus pour Michel Jadis à ce moment-là.
Tara, c'est un symbole de l'histoire d'amour entre les Français et leurs champions, même lorsqu'ils ne...
Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque des champions, c'est ça aussi.
Oui, c'est exactement ça, mais je pense qu'on cultive ça depuis toujours, c'est-à-dire qu'on est capable d'encenser un sportif quand il nous fait vibrer, et dès que les résultats ne sont plus là, on les descend de leur piédestal sans parfois connaître les circonstances qui vont avec.
Merci beaucoup, mes grandes gueules, Sarah, Marie, Pascal, Christophe. On s'est régalé encore une fois. On se retrouve très bientôt. Le réfé Jean-Christophe Drouet revient le week-end prochain. Les auditeurs, vous ne bougez pas. Vous restez bien sur RMC. Le dimanche de sport est lancé dans quelques instants. La bande des flambeurs pour les paris RMC jusqu'à 13h. Salut.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.